e-podcast.
Un podcast qui vous plonge dans nos enquêtes sur l'éthique en entreprise et sur le web.
Réalisé avec bienveillance par Lily
et Marine de l'agence Web Hippocamp.
Une agence en pleine transition éthique. Nous revoit la partie avec une nouvelle enquête. Après l'inclusion et l'accessibilité numérique, le numérique éco-responsable, on s'intéresse maintenant à l'entreprise de demain. Si on devait brosser le portrait de l'entreprise de demain, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? En interne, comme depuis l'extérieur. Pour y parvenir, on s'est penché sur les sujets de gouvernance, de management et de communication. Comment l'entreprise de demain s'organise? Comment les équipes sont-elles gérées? Comment se comportent les leaders et les managers? Comment est-ce qu'elles communiquent avec toutes ces parties prenantes? Bref, plein de questions intéressantes que l'on a posées à des experts et expertes de ces différents domaines. Dans cette série, on a rassemblé une grande diversité de profils passionnants et engagés. Une valeur ajoutée énorme pour aborder l'entreprise de demain sous différents angles. Et puis ça nous motive énormément de pouvoir partager nos découvertes et qui sait, vous inspirer à faire évoluer vos pratiques professionnelles. L'entreprise de demain est bien plus proche de nous qu'on ne le croit. En fait, elle existe déjà. Mais on ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez dans cette enquête. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode et on continue notre focus législatif. Dans cette seconde partie, on s'intéresse au cadre légal et déontologique autour de la communication des entreprises. On interroge une personne plus que bien placée pour parler du sujet. Émilie Le Gall, qui travaille à l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, créée en 2008. C'est une association et un organisme privé d'autorégulation de la publicité en France. On interroge également Camille Le Guillou pour nous donner une définition du greenwashing et d'autres types de washing. Et pour finir en beauté, parce qu'on sait que la partie légale n'est pas toujours la plus rigolote, on vous partage l'intervention de Cyril Maslow. Il remet en question notre modèle économique en l'abordant sous un nouvel angle. Et il n'y va pas par quatre chemins. On ne vous en dit pas plus, mais nous, ça nous a bien ouvert l'esprit. Et ça nous a permis d'envisager d'autres modèles économiques pour construire un avenir plus durable et plus humain. Alors, c'est parti! On se lance d'abord avec un focus sur la communication externe des entreprises. L'enjeu de ce contexte est évidemment de communiquer de la manière la plus responsable possible. Ce qui veut dire, entre autres, éviter le washing. Greenwashing, social washing, purple washing, Camille fait le point sur ces pratiques à bannir.
En fait, on entend beaucoup parler de greenwashing, qui va être un peu le mot, je trouve, un peu valise qui va être utilisé un peu pour tout. Tu vois, dès qu'une marque va utiliser un argument pour faire vendre, grosso modo en se donnant une bonne image, que ça soit une image engagée, écolo, progressiste, etc., on a tendance à utiliser le terme greenwashing. Au départ, ce terme-là, il est plutôt utilisé pour qualifier tout message publicitaire qui va pouvoir induire le public en erreur sur la qualité écologique d'un produit, d'un service et même de ta démarche au global, de ta stratégie au global, tu vois, de développement durable pour ton entreprise. Et ça, ça concerne tout le monde, tu vois, que tu sois une entreprise très engagée ou pas, que tu sois une organisation publique, que tu sois une asso, tout le monde peut tomber un peu dans les travers du greenwashing. Mais comme je te disais, le greenwashing, c'est vraiment beaucoup plus focus sur les thématiques environnementales, développement durable. Mais au-delà du greenwashing, effectivement, tu as d'autres types de washing. Tu as, par exemple, du social washing, pink washing, purple washing, du rainbow washing, happy washing, purpose washing. Enfin bref, tu en as énormément. Et pour te donner, tu vois, quelques exemples par rapport à ceux que je t'ai cités, par exemple, si tu parles de social ou good washing, ça va être plutôt quand tu vas utiliser, par exemple, tu fais des dons à des associations qui luttent contre les discriminations, mais en fait, en interne, tu le fais pas du tout. En interne, il n'y a aucune diversité, il n'y a aucune inclusion. Donc, du coup, tu te sers de cet argument un peu associatif pour te donner bonne conscience et donner une bonne image. quand tu parles de pinkwashing ou de rainbowwashing, c'est plutôt lié à la cause LGBT. Donc, tu vas te donner, pareil, une image un peu progressiste et engagée pour les droits LGBTQIA+, alors que tu fais rien du tout derrière. Si tu parles de purple washing, c'est plutôt lié au féminisme. Tout ce qui est happy ou purpose washing, c'est plutôt lié au bonheur au travail. Par exemple, oui, dans notre entreprise, on a un super baby foot à la cafette, mais derrière tout ça, on te demande de travailler je ne sais pas combien d'heures le week-end. Les alternants ne sont pas du tout respectés, les stagiaires non plus. Donc, du coup, cette injonction, tu vois, un peu au bonheur au travail, en fait, derrière, il y a une pression. Il n'y a aucune cohérence derrière tout ça, tu vois. Et derrière, en fait, toutes ces problématiques de washing, j'englobe vraiment le terme, parce que ça reste le même principe, c'est voilà, d'utiliser un argument pour se donner une bonne image. Derrière tout ça, en fait, c'est que tu as un problème de perte de confiance entre les consommateurs, les entreprises. Tu as un frein au développement peut-être de véritables innovations derrière. Et puis, les gens ils vont avoir une confusion dans leur esprit entre la réalité et finalement les efforts que je dois mettre en place. Et en plus de ça, évidemment, une atteinte à ta réputation en tant qu'entreprise, en tant que marque employeur. Donc, faire du washing, évidemment, tu as plein de problèmes derrière. Et je trouve que les plus importants, c'est cette perte de confiance et cette confusion entre les efforts que je dois mettre en place finalement parce que je me donne bonne conscience. Je me dis que l'entreprise dans laquelle je vais acheter mes produits ou je vais faire appel pour un service, en fait, tout va bien. Ils plantent des arbres derrière alors qu'en fait... En fait, il n'y a rien de tout ça qui est très concret. C'est juste, encore une fois, de la com, quoi.
On y voit tout de suite plus clair. Vous saviez qu'il existait autant de washing différents? Quelle que soit votre réponse à cette question, vous aimeriez sûrement savoir comment éviter de tomber dans ces travers. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'on a creusé avec Émilie Le Gall. Place à l'interview.
Côté législation et règles de déontologie, qu'est-ce qui est actuellement mis en place pour réglementer la communication des entreprises?
Alors, beaucoup de choses. Déjà, si on prend la réglementation française applicable à la communication, c'est une réglementation qui est très riche, mais qui est aussi très vaste. La France, c'est d'ailleurs sans doute l'un des pays les plus soumis à ces réglementations, qui sont intervenues généralement après les règles déontologiques de la profession, et qui viennent également encadrer les communications, et ce, quel que soit le secteur. Donc, sur le terrain législatif, les dispositions, elles peuvent être très diverses. On va avoir l'identification obligatoire de la publicité, la traduction des termes étrangers, l'encadrement strict des publicités en faveur de l'alcool, la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses, l'ajout obligatoire de mentions, l'encadrement des communications en faveur des jeux d'argent, etc., etc., etc. Donc, je pense que tu l'as compris, on a plein de sujets divers et variés encadrés par la réglementation, donc quel que soit le secteur. Plus récemment, on peut citer par exemple la loi d'orientation des mobilités, donc, qu'on entend beaucoup sous la forme de la loi LOM, donc, qui date de 2019, qui instaure pour les communications tout support en faveur des véhicules motorisés, des messages invitant les consommateurs à recourir à des moyens de transport moins émissifs pour l'environnement. Mais aussi, on peut citer la loi Climat et Résilience de 2021, qui instaure également pour ces produits l'insertion d'une étiquette énergie, le niveau d'émission de CO2 en équivalent CO2 du véhicule présenté sur tous les supports publicitaires visuels. On peut aussi dire que tu vois, cette loi climat et résilience, elle prévoit aussi l'interdiction de la publicité faisant la promotion des énergies fossiles, ce qui est déjà le cas pour les carburants depuis août 2022, sauf les biocarburants. Et elle encadre aussi très strictement les allégations relatives à la neutralité carbone. On peut citer aussi donc un guide qui est très attendu, qui vient du Conseil national de la consommation, le CNC, un guide des allégations environnementales donc, qui est attendu pour mars 2023 et qui viendra justement restreindre et encadrer des allégations environnementales. Sur le terrain de la déontologie, on n'est pas en règle parce qu'on a 30 recommandations déontologiques issues du code de l'ARP, à la fois transversales. Donc, par exemple, sur le sujet du développement durable pour lutter contre le greenwashing, la communication publicitaire numérique, les comportements alimentaires, etc. On a aussi des recommandations de l'ARP qui sont sectorielles pour les produits cosmétiques, les jeux d'argent, l'automobile, l'alcool, etc., qui vont venir s'ajouter à ces dispositions légales. Ces recommandations, elles sont fondées donc sur le code de la Chambre de commerce internationale, le code ICC, sur la publicité et les communications commerciales, donc renforcées selon leur thématique par les chartes d'engagement qui vont être signées par les représentants des professionnels, l'ARP, mais aussi les pouvoirs publics. Ces règles déontologiques, elles sont donc applicables à toute publicité à destination des consommateurs français, au même titre que la réglementation, et ce, quel que soit le support de diffusion.
Et sinon, alors justement, on voit qu'en effet, il y a pas mal de lois, de règles déontologiques qui sont en place. Et quand on a échangé toutes les deux la dernière fois, tu disais aussi que la loi évolue à l'image de la société. Donc, avec ton constat, en fait, vers où est-ce que tu penses que l'on tend ?
Alors, bien sûr, je ne pourrais pas te répondre exactement, mais il me semble en tout cas évident qu'on ne tend pas vers davantage de souplesse, notamment sur le terrain environnemental. Parce que face aux grands enjeux qui sont les nôtres, collectivement, mais aussi face à des consommateurs qui deviennent de plus en plus attentifs et exigeants sur ces questions, la communication, elle devrait exprimer avec toujours plus de justesse, mais aussi d'humilité, les actions et les engagements de l'annonceur en matière de développement durable.
Alors là, tu parlais du cadre légal, tu parlais aussi des règles déontologiques de la RPP. En fait, pour que les choses avancent, finalement, il s'agit avant tout d'un travail collaboratif entre différents acteurs et actrices. Donc en fait, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement et le travail de la RPP ?
Alors oui, alors l'ARP, déjà, c'est une association, statut loi 1901, qui est totalement indépendante des pouvoirs publics, qui fait appel à aucun financement public. C'est également le dispositif unique et très ancien de régulation professionnelle de la publicité. Donc notre nom, il a évolué hein, depuis sa création en 1935. Certains nous connaissent peut-être encore sous le nom de BVP, le Bureau de vérification de la publicité. Mais on a toujours la même mission statutaire, agir en faveur d'une publicité loyale, véridique, saine et responsable, dans l'intérêt des professionnels, des consommateurs et du public en général, des citoyens. Depuis 2008, ce dispositif de régulation professionnelle il s'accompagne de trois instances associées, donc le Conseil de l'éthique publicitaire, le CEP, l'instance qui est l'instance de réflexion qui existait déjà depuis 2005, le Conseil paritaire de la publicité, donc le CPP, qui est une instance de concertation qui fait collaborer les associations et les professionnels, et enfin le jury de déontologie publicitaire, le JDP, qui est une instance de contrôle présidée par des magistrats et composée de personnalités indépendantes de la profession, mais aussi d'associations par exemple. Donc ce dispositif, il allie la création par les professionnels des règles d'éthique, donc les recommandations du code de l'ARP, ainsi que le soin de veiller à leur application. L'autorégulation publicitaire, c'est donc fondée sur la responsabilisation de la profession qu'ils l'ont mise en place au sein de l'ARP, notamment en créant des recommandations en concertation avec la société civile. Ces recommandations, elles vont alors porter sur différentes thématiques, comme par exemple le respect de l'image de la personne humaine, le développement durable, on en parlait, les comportements alimentaires, l'automobile ou encore les communications publicitaires numériques, avec notamment le cas des communications des influenceurs plus récemment. Donc à l'ARP, on va avoir une dizaine de juristes conseils qui traitent environ 200 dossiers par jour travaillés et principalement avant diffusion. Ils vont rendre des conseils avant diffusion sur des projets publicitaires tous médias en cours. Les plus de 750 adhérents cotisants à date de l'ARP peuvent solliciter du coup des conseils confidentiels afin de s'assurer de leur conformité avec les règles de droit positif, mais aussi déontologiques. Avec le Conseil développement durable, l'ARP a d'ailleurs renforcé le contrôle avant diffusion des principales campagnes nationales portant sur une allégation environnementale, définie dans le champ d'application de la recommandation développement durable de l'ARP, et ce, quel que soit le support de communication utilisé. En application de la convention de partenariat donc signée avec l'ARCOM, donc anciennement appelée le CSA, convention qui date de 1990, l'ARP doit systématiquement visionner avant diffusion toute publicité linéaire et de services de médias audiovisuels à la demande, donc avant diffusion. Du coup, les juristes émettront soit des avis favorables, soit à modifier ou encore à ne pas diffuser. Et dans un souci constant de pédagogie, on a également développé des ateliers destinés à favoriser une meilleure appropriation des règles déontologiques par les professionnels du secteur, mais aussi par les étudiants. Il est donc possible de s'inscrire à des ateliers ARP sur différentes thématiques comme publicité environnement, publicité automobile ou encore publicité influence responsable, etc. On a également développé le certificat de l'influence responsable qui est destiné à former les créateurs de contenu sur les règles légales et déontologiques applicables à l'influence, mais aussi, plus récemment, le module Influence et dérèglement climatique afin de leur permettre de prendre conscience de l'impact du choix de leur partenariat, mais aussi plus généralement de leur prise de parole pour leur audience et leur communauté. Donc, à ces actions avant diffusion, il s'ajoute aussi des dispositifs après diffusion, donc les autosaisines en cas de manquement constaté à une ou plusieurs règles déontologiques ou juridiques en vigueur, les bilans déontologiques d'application des recommandations de l'ARP, dans lesquels est vérifiée la conformité des publicités diffusées et dont certaines sont réalisées en partenariat, comme c'est le cas en fait pour le bilan publicité environnement qui est réalisé avec l'ADEME, ou encore les observatoires de pratiques publicitaires digitales et notamment de l'influence responsable.
En dehors de l'ARP, quels sont les autres organismes qui s'engagent pour une communication plus responsable ?
Alors on peut bien évidemment citer l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui est un établissement public et qui vient de sortir une nouvelle version de son guide de la communication responsable, auquel nous avons d'ailleurs contribué, et avec qui nous travaillons sur les bilans déontologiques publicité et environnement depuis plus de 15 ans maintenant. Le dernier d'ailleurs va bientôt sortir. Plus généralement, bien sûr, on a les annonceurs ou tous les membres de la filière communication qui sont engagés envers une communication plus responsable et qui œuvrent de concert à cette fin.
Alors justement, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place. Enfin, on voit quand même que ça bouge un petit peu niveau communication responsable. Nous aussi, c'est vrai que de notre côté, on est de plus en plus en contact avec des acteurs et des actrices de la communication responsable. Et je me demandais, en fait, est-ce qu'il existe un lobbying ou quelque chose du genre au niveau de la communication responsable ?
Alors moi, je ne parlerai pas de lobbying, mais de pédagogie, ce qui n'empêche pas le contrôle. On a plusieurs acteurs, dont nous faisons bien évidemment partie, hein, qui œuvrent au quotidien pour une communication plus responsable, chacun dans son rôle, avec des actions complémentaires, comme les membres de la filière communication, l'Union des marques, avec notamment son programme FAIR, les pouvoirs publics ou encore des acteurs associatifs.
Est-ce que cette pédagogie a un impact, j'imagine que oui, mais quel est l'impact de cette pédagogie sur la communication ?
Ben, l'impact déjà, c'est qu'on voit quand même que les règles sont de mieux en mieux appropriées au sein des agences, des annonceurs. Et nous, par exemple, au sein de l'ARP, on voit qu'on est de plus en plus sollicité avant diffusion sur tous les supports de communication, dont l'influence responsable sur ces sujets, malgré que notre avis soit finalement facultatif. Ça montre en fait que le sujet, bien sûr, est de plus en plus assimilé chez un annonceur, chez une marque, chez son agence, et communiquer de manière plus responsable devient un incontournable en fait. Et se faire bien accompagner pour bien communiquer devient incontournable également sur ces sujets-là. Donc on voit vraiment, nous, au niveau de l'ARP, effectivement, qu'il y a une recrudescence de sollicitations avant diffusion, quel que soit le support de diffusion. Ouais. Donc ça veut dire que la parole porte et devient plus efficace.
Moi, en tant que professionnelle de la communication, comment est-ce que je peux participer à ce mouvement responsable ? Est-ce que je peux agir pour inciter des entreprises à communiquer de manière plus responsable ? Enfin, qu'est-ce que je peux faire ?
Alors, déjà, merci de poser la question. Parce que absolument, oui, il faut que il y a des choses à faire et que tu peux faire. Je dirais même d'ailleurs que tu dois les faire. Puisque, en fait, chaque action compte et qu'en agissant ensemble, c'est là qu'on va aller dans le bon sens en engageant dans le sens des engagements que la France a pris devant le monde, en fait, avec l'accord de Paris, la stratégie nationale bas carbone, etc. Donc, le moyen le plus efficace pour le faire, donc, c'est avant tout de se former aux règles, ce qui n'est pas toujours si évident. Tu peux, par exemple, assister aux différents ateliers qu'on dispense sur différentes thématiques dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ensuite, ce qui est important aussi, c'est de se faire accompagner dans l'élaboration des campagnes publicitaires. Donc, je peux que conseiller à une marque et son agence de nous soumettre avant diffusion son projet publicitaire afin de nous permettre de le sécuriser et aussi de pouvoir communiquer plus sereinement. Rejoindre les adhérents pour travailler ensemble, c'est important en fait. Et donc, toi, à ton niveau, effectivement, c'est bien d'être adhérent à l'ARP, de nous soumettre les projets de conseil et pouvoir justement co-construire la campagne en étant certain qu'on respecte bien, que celle-ci elle est bien conforme, quel que soit le support de diffusion, à toutes les règles juridiques et déontologiques en vigueur.
C'est pour ça que se faire accompagner, c'est super important, parce que c'est vrai que parfois, en fait, même sans le vouloir, même avec la meilleure volonté du monde, ça peut arriver qu'on fasse du greenwashing ou même un autre type de washing. Est-ce que tu aurais des exemples, justement, d'agences, d'entreprises à qui c'est arrivé ?
Alors déjà, nous, à l'ARP, on ne pense pas qu'une marque fasse volontairement du greenwashing, à moins qu'il s'agisse d'une arnaque, bien entendu, mais là, c'est un autre sujet, du coup. Mais dans la majorité des cas, il s'agit plutôt de maladresse. On a une marque qui va beaucoup s'investir pour développer un produit ou un service qui a des propriétés environnementales et qui peut du coup parfois communiquer de manière disproportionnée sur ces dernières en omettant de considérer l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service. Donc par exemple, comme chose qu'on a pu constater, qui sont pour nous des maladresses et qui du coup nécessitent d'être expliquées à l'annonceur ou à son agence, c'est on a pu voir des cas d'un produit positionné comme écologique parce que son emballage est recyclé ou parce que la marque a mis en place un programme de compensation carbone par exemple, ou encore des cas de greenwashing parce que il y a des allégations qui paraissent très excessives, mais surtout parce qu'elles n'ont pas d'explication associée. Voilà.
Tu parles de, par exemple, on ne peut plus du tout utiliser le positionnement neutre en carbone. Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres phrases, en fait, que tu ne peux plus du tout utiliser aussi, justement, sinon tu tombes dans le greenwashing ?
Alors, l'allégation neutre en carbone, ce n'est pas qu'on ne puisse pas du tout l'utiliser. Hein. Ça avait pu être une volonté qui n'a pas été suivie, en tout cas, par les textes, mais la loi climat et résilience est venue quand même restreindre considérablement son champ des possibles, comment dire ça, parce qu'on peut l'utiliser, mais sous certaines conditions très encadrées. Donc d'abord éviter, réduire, et ensuite avoir un plan de compensation carbone. Et tout ça à disposition des consommateurs sur les sites lorsqu'on allègue des allégations de type neutralité carbone. En sachant que l'ADEME a produit une note sur le fait qui préconise des termes alternatifs plutôt que d'alléguer neutralité carbone, qui peut être effectivement perçu comme un non-sens. Hein. Voilà. On attend tous avec impatience ce guide des allégations environnementales du CNC qui donnera justement une ligne plus claire de ce qui ne peut plus être utilisé, ce qui sera interdit d'utiliser ou qui sera fortement encadré.
Et sinon, quels sont les conseils que tu donnerais à une entreprise pour éviter le... On avait parlé de green bad buzz, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qu'est-ce que tu recommanderais justement aux entreprises pour en tout cas éviter le bad buzz qui est généré par le greenwashing ?
Bah, là encore, c'est de se former aux règles et de se faire accompagner. Donc un produit ou un service plus vertueux, il ne sera jamais totalement vert et il sauvera sans doute pas à lui seul la planète. Donc il est nécessaire et primordial de regarder avec humilité ses actions et ses engagements en matière de développement durable au regard d'un ACV complet, enfin d'une ACV complet, et de communiquer avec justesse. Donc cela concerne bien sûr tous les supports de communication sans exception et il est important du coup que chacun joue le jeu pour accompagner les consommateurs en toute transparence vers des modes de consommation plus responsables, ce que le greenwashing ralentit.
Je ne sais pas si tu as eu des cas comme ça, mais disons qu'une entreprise, malgré tout, elle a fait une campagne qui est complètement greenwashée. Du coup, elle génère un bad buzz autour d'elle. Et qu'est-ce que tu recommandes à une entreprise qui se retrouve dans ce cas de figure ?
Déjà, de retirer sa communication. Si le cas de greenwashing est avéré, il faut absolument la corriger. La corriger déjà, la retirer pour éviter. Parce que, encore une fois, ça peut être des maladresses et on n'a pas forcément conscience de faire du greenwashing avant d'être confronté justement à ce bad buzz. Donc, l'idée, c'est d'abord de retirer la communication, même si le mal est fait, entre guillemets. Mais c'est surtout d'apprendre aussi de ses erreurs pour que la prochaine communication n'ait pas ces maladresses incluses dans sa communication. Ouais. Et donc, de se refaire accompagner pour la prochaine fois, voir là où comprendre les raisons de ce greenwashing. Et du coup, ne pas réitérer la prochaine fois.
Et est-ce que tu recommanderais aussi de rebondir un peu sur cette erreur ? Parce qu'il y a certaines marques, alors je n'ai pas d'exemple concret en tête, mais de mémoire, j'avais vu justement ce genre de situation où les entreprises ont su même rebondir en assumant, on a merdé, et rebondir dessus.
Là, ça appartient à chaque marque de prévoir une communication de crise, parce que les sujets environnementaux, il faut une communication de crise dédiée, je pense. Et c'est bien aussi, mais ça aussi, finalement, c'est du bon sens et de la logique. Il faut savoir reconnaître, on est derrière des communications, il y a des humains qui peuvent eux-mêmes faire des erreurs. Alors, je retire encore le cas des arnaques, qui sont bien particulières sur le sujet. Mais encore une fois, nous, à l'ART, on ne pense pas que ça soit une volonté folle de faire du greenwashing, parce que pour le bad buzz que ça a atteint et sur l'image que ça apporte sur la marque, on voit assez mal l'intérêt, mais qu'une marque ou son agence soit persuadée des propriétés environnementales d'un produit et qui, du coup, ont une telle folle envie de communiquer dessus parce qu'ils en ont investi du temps, de l'argent, etc., et que du coup que l'emballement soit disproportionné, on peut le comprendre, mais du coup c'est important pour nous de faire la pédagogie pour expliquer pourquoi est-ce que cette communication elle va trop loin, elle emploie des maladresses, etc. C'est important aussi pour l'annonceur de recueillir aussi nos recommandations pour pouvoir aussi s'améliorer pour la suite. Donc ça, c'est tout un travail de pédagogie sur lequel on travaille, et c'est pour ça aussi qu'on intensifie nos actions, quel que soit le support de diffusion. Parce que, effectivement, il faut en face qu'on comprenne que ce sont des humains qui communiquent et qui peuvent faire des erreurs. Et du coup, et qui peuvent justement, et qu'ils ont le droit aussi d'avoir une deuxième chance pour la prochaine fois et s'améliorer.
C'est l'idée aussi de l'amélioration en continu. On n'est pas parfait ni parfaite. On ne peut que apprendre. Est-ce que tu aurais d'autres conseils liés à d'autres piliers en fait, de la communication responsable, type sur la déontologie, la RGPD, la transparence de la communication?
Oui, c'est bien d'en parler, parce que ce n'est pas que l'environnement, parce que pour être responsable, dans le sens premier du terme, une communication, elle doit être respectueuse des consommateurs de manière générale. Donc la communication, elle doit être transparente, elle ne doit pas induire en erreur, et pas seulement du coup sur ces questions de développement durable, mais aussi les protéger, ces consommateurs, tout comme leurs données, donc tu citais RGPD. Donc en fait, c'est du bon sens, hein. Il faut se respecter entre nous, respectons-nous.
Bah oui, c'est si bête en fait, c'est tout simple. Hein. Et comment est-ce que tu vois l'avenir de la communication pour les entreprises?
Alors je pense que les entreprises auront toujours besoin de communiquer, et donc de se faire accompagner pour bien communiquer. Ce qui va changer plus, à mon avis, c'est leur manière de le faire, tant sur le fond que sur la forme. Donc, éco-concevoir sa campagne publicitaire de manière plus systématique et recourir avec justesse à de nouveaux récits qui reflèteront la communication, voilà, ce sont les enjeux de demain au service de la transition écologique et sociale, sociétale. Là encore, si on considère que la publicité, maintenant, elle a au moins 300 ans, la communication des entrepreneurs, elle a constamment évolué parce que pour durer, elle respecte les récepteurs de ces messages.
Et sinon, dernière petite question, est-ce que tu aurais justement un dernier mot que tu voudrais ajouter avant que l'on clôt l'enregistrement?
Oui. Donc déjà, je voulais ajouter que la communication, c'est vrai qu'elle peut avoir l'image d'être en contradiction avec la transition écologique, hein. Je pense, moi, plutôt au contraire, que bien utilisée, elle peut être un formidable vecteur de transformation. Donc, je pense que c'est important de l'envisager comme une alliée et que ça peut être justement, au contraire, une force. De notre côté, c'est vrai que nous, on fait ce pari, forcément, à l'ARP. D'ailleurs, on lance prochainement un dispositif de mécénat de compétences pour permettre à des acteurs engagés dans la transition écologique et sociétale de bénéficier gratuitement de notre accompagnement pendant un an. Et ça aussi, ça arrivera très prochainement. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler bientôt.
La communication a donc un bel avenir devant elle à condition d'être responsable. C'est en tout cas ce que l'on pense chez Hippocampe. Comme le rappelle Émilie, il faudra toujours communiquer. Mais certaines pratiques ne passent déjà plus vraiment. Et elles ne passeront bientôt plus du tout côté audience. Alors autant prendre le tournant responsable dès maintenant et coller aux attentes éthiques grandissantes de la société. La transition responsable de votre communication est nécessaire. Et c'est justement l'une de nos expertises. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus Et puis on vous donnera aussi des conseils concrets dans les prochains épisodes de cette série. Mais en attendant, on vous propose de prendre de la hauteur et de terminer cet épisode avec une intervention qui claque. Cyril Maslow met les pieds dans le plat et s'attaque directement à notre modèle économique. Il nous invite à regarder les choses sous un nouvel angle, un angle différent, parce que justement, selon lui, on ne regarde pas dans le bon sens. Et c'est justement ce qui crée des tensions dans toutes les sphères de la société. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir notre échange. Lorsqu'on a discuté ensemble il y a quelques semaines, tu parlais de l'opposition entre deux modèles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
On est effectivement face, encore à l'heure actuelle, à des modèles qui s'affrontent. Alors, qui s'affrontent ou qui essayent de coexister, mais quand même, hein, qui ne sont pas toujours tout à fait d'accord les uns avec les autres, bah parce que, comme je l'expliquais auparavant, les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on est dans une entreprise, dans une structure dont l'objectif fondamental est avant tout de dégager du bénéfice pour les actionnaires, ben on est quasiment prêt à n'importe quoi, concrètement. Y compris, par exemple, puisqu'on va parler de communication, à contrôler ce qui se passe dans l'information que l'on distribue. Je pense, à l'heure actuelle, à comment sont détenus les médias en France, mais c'est pareil en Europe, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil un peu partout, malheureusement. Donc ces mondes s'affrontent et de manière insidieuse, au fur et à mesure, transforment, y compris les services publics, pour aller dans cette logique-là. À côté de ça, le monde qui, on va dire, plutôt celui d'économie sociale et solidaire, j'allais dire entre guillemets, fait ce qu'il peut, essaye de communiquer et de créer d'activités dans son coin, mais n'est pas aussi intrusif ou pernicieux dans les autres services et dans les autres systèmes. Donc ça, c'est pas encore très, très, très efficace. Alors après, il y a des outils légaux et des outils illégaux. Effectivement, quand on travaille et qu'on s'intéresse notamment à la fraude fiscale, puisqu'on sait à l'heure actuelle que si on réglait le problème de la fraude fiscale en France, on n'aurait plus de problème du trou de la sécurité sociale, on n'aurait plus de problème des retraites, ça irait beaucoup, beaucoup mieux. Cette fraude fiscale, elle ne vient pas de l'économie sociale et solidaire. Elle vient du monde de l'économie marchande, pour la nommer comme ça et pour ne pas dire capitaliste ou ultralibérale, mais cette fraude-là, elle vient de là. Hein. Donc concrètement, là, il y a une bagarre, si vous voulez, qui se mène au-dessus des États, au-dessus des nations. L'intérêt privé des riches, voire des plus riches, voire des ultra-riches, est supérieur à l'intérêt des nations et des États à l'heure actuelle.
Ça fait écho chez moi, je me demande si... Actuellement, le gouvernement et les États, tu sembles dire qu'ils ferment les yeux sur pas mal de choses, mais est-ce qu'à côté de ça, ils accompagnent quand même la transition responsable des entreprises ou pas du tout ?
C'est toujours un peu compliqué pour notre système actuel, nos sociétés actuelles, d'être, on va dire, trop visiblement d'un côté ou de l'autre. Au tout début, quand je me présentais, je vous disais que je travaille beaucoup en analyse de discours. Et j'apprends à mes étudiants, c'est pas les miens, mais les étudiants qui passent par mes mains en tout cas, à utiliser des logiciels et des méthodes, hein, de l'ingénierie, pour analyser les discours politiques. Et on l'a fait sur les deux dernières présidentielles, mais aussi sur des législatives. Et un phénomène incroyable qui est arrivé avec cette nouvelle génération de politiques et de politiciens, c'est le fameux « en même temps ». Excusez-moi de reprendre encore un exemple local. Je suis, moi, un grand fan de nos produits fromagers dans le Jura, dans la Franche-Comté en général. Le comté, on en fait du super bon ici, on en fait du très mauvais pour vendre ailleurs en France et à l'étranger, mais on en fait du très bon en local. À mon avis, on se le garde un peu pour nous d'ailleurs, mais enfin bon. Eh bien, n'empêche que cette filière-là, elle est, du point de vue écosystémique, elle est extraordinairement négative, elle est destructrice d'écosystèmes, elle est très très mauvaise pour la nature. Pourquoi ? Parce que on déforeste pour créer de plus en plus de champs, de prés, pour que nos vaches puissent se nourrir. ou pour que l'on fasse pousser du maïs, ce qui est affreux du point de vue écologique, le maïs consomme des tonnes de flotte et un espace pas croyable. Donc bref, on perd de l'espace à cause de cette filière-là. On a des rejets de pollution d'eau, de petits laits, etc., dans nos cours d'eau, dans nos rivières, que l'on constate chaque année. Ils prennent des amendes, mais ce n'est pas grave, ça continue et c'est de pire en pire. N'oublions pas que les bovins participent très amplement aux émissions de gaz à effet de serre, comme on le sait assez régulièrement. Donc on a des élevages qui sont quand même compliqués, on va dire, du point de vue empreinte écologique. Eh bien, quand on dit ça, et qu'on dit il faut, les associations de lutte pour l'environnement essayent de faire comprendre à la filière et aux politiques, aux préfets, etc., qu'il faut limiter l'implantation, qu'il faut qu'on limite la filière, etc., on nous répond tout de suite le sacro-saint « Ah, mais vous allez tuer de l'emploi ». Mais encore une fois, on retombe sur ce problème de l'emploi. Vous voyez ? Et ça, c'est un vrai souci. Et moi, j'aimerais bien justement qu'on pousse régulièrement la discussion jusqu'au bout et qu'on arrive à chaque fois à cette question de « Ah oui, mais vous allez tuer de l'emploi, donc vous allez provoquer de la pauvreté ». Eh bien, très bien. Maintenant, reprenons les choses à l'envers. Échelle des salaires, richesse, écart entre riches et pauvres. On a suffisamment de richesse en France, et ça a été démontré depuis 20 ans, par des économistes, par des sociologues, par plein de collègues. On a les moyens, depuis plus de 20 ans maintenant, pour mettre en place un revenu minimum d'existence, ou un revenu universel, ou une allocation, enfin, appelez ça comme vous voulez. On donne à chaque individu en France 1500 euros, l'équivalent en pouvoir d'achat, pour vivre par mois. S'il veut plus, il travaille comme il veut, il fait autrement. Mais du coup, on va inverser la tendance, on va créer une activité, et on va réfléchir à nouveau à comment on répond à des besoins, et non pas comment on crée des illusions nécessaires.
On ne voit pas les choses comme ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'on nous a poussé à penser emploi égale argent égale richesse. Ouais. Quoi.
En plus, c'est pas si inconnu que ça. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je parlais des coopératives. C'est que, tu vois, les paysans du Haut-Doubs et du Haut-Jura, dans les années, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, et puis qu'ils avaient leur vache et tout ça, il fallait bien à un moment quelconque, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour y arriver. Donc, en fait, c'est pas si vieux que ça. C'est souvent des remèdes de grand-mère, de la logique de grand-mère, comme moi je dis, qu'on nous fait oublier par les systèmes actuels. Moi, j'ai vécu avec des parents qui sont nés en 40, qui sont nés pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, des grands-parents qui, eux, sont nés pendant la Première. Et mes parents, quand ils ont vu l'arrivée des supermarchés et des hypermarchés, ils étaient contents. C'était la libération de la femme surtout, hein, parce que on n'a plus besoin de faire le jardin, on n'a plus besoin de faire de l'élevage, on n'a plus d'économie de subsistance au quotidien, on perd cette idée-là du foyer et ça nous libère du temps pour aller à l'usine. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous savez ce que vous mangez ? Est-ce que vous savez ce que vous avez dans votre assiette ? Est-ce que vous savez ce que vous buvez comme eau ? Quel est l'air qu'on respire ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On a complètement perdu pied sur l'étage numéro 1 de la pyramide de Maslow. On n'a plus aucun contrôle de ça.
Oui, en fait, on a délégué.
On a tout délégué. On a délégué aussi nos gouvernances. Qui a envie maintenant de s'impliquer dans sa commune ou dans son quartier ? Qui a envie de s'impliquer dans des associations, des choses comme ça, tu vois ? Alors, vos générations à vous, il y a un espèce de rebond. Il y a un petit rebond qui fait que vos générations s'impliquent un peu plus dans les aspects communautaires. Mais sinon, les assos, elles sont remplies à trois quarts de retraités. Hein.
Ouais, bah après, j'ai l'impression que c'est un ras-le-bol général de notre génération. Et tu te préoccupes un peu pour ton futur.
J'espère. Tout à l'heure, je vous parlais d'éco-anxiété et de solastologie. C'est qu'on voit dans beaucoup de nos jeunes actuels un effondrement psychologique. Je sais que je ne suis pas gay, hein, mais n'empêche que c'est vrai. Moi, je le vis très régulièrement. Par exemple, depuis que je suis prof à l'université, à l'IUT en particulier, au département Infocom, j'ai noté, on a observé, mes collègues sont d'accord avec moi, une très nette dégradation de l'aspect sanitaire des étudiants. Alors, dans deux sens, on a de plus en plus d'étudiants qui sont malades, qui ont des tiers-temps, qui ont des dispenses de trucs, de ceci, cela, d'étudiants qui font leurs études en 3 ans et non pas en 2 ou en plus, voilà. Et des étudiants qui ont des maladies, soit physiques, quoi, je veux dire, des problèmes physiques, mais on a surtout une explosion des problèmes psychologiques. C'est extraordinaire, incroyable. Alors, pas seulement parce qu'on les détecte mieux, mais franchement, là, il y en a plus. Là, il y en a plus. On a des vrais problèmes. Tout à l'heure, vous parliez du sens, etc. Mais fondamentalement, quand on est étudiant, quand on est dans ces âges-là, dès qu'on arrive au collège, hein, je dirais quatrième, voilà, cinquième, quatrième, on commence à se poser des questions sur la vie quand même. Et qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi je suis là? Et je répète, qu'est-ce qu'on offre à cette génération à l'heure actuelle comme avenir?
Bon, et bien voilà, ça pose les bases. Ou plutôt, ça les déconstruit. C'est une réflexion très intéressante selon nous. Évidemment, ça donne matière à débat, mais ça mérite d'être abordé pour trouver des solutions, faire bouger les choses et faire évoluer notre société pour le mieux. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Il y aurait encore des tas de choses à dire sur le sujet, mais on va s'arrêter là. Cela dit, on serait ravis de poursuivre cette discussion avec vous, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours et partager vos avis sur nos réseaux sociaux. On aime beaucoup ce genre d'échanges car elles sont orientées vers des solutions. Ces discussions ouvrent sur d'autres perspectives et permettent d'envisager les situations différemment. Et puis ça peut nous ouvrir à de nouvelles opportunités si on s'écoute les uns les autres et que l'on décide de passer à l'action, évidemment. C'est d'ailleurs ce que l'on vous propose dans les prochains épisodes de cette série. On passe à l'applicatif. On a interviewé des experts et expertes en communication responsable, en management, en leadership, en gestion ou encore en organisation de l'entreprise. Vous pourrez donc piocher des conseils et des bonnes pratiques dans les épisodes à venir. On vous dit à très vite. Merci beaucoup.